Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 25 août. Très belle journée. On est en plein été froid.
Profitez
pleinement. Et j'ai quelqu'un qui est de retour avec moi. Ça me fait un grand plaisir de saluer le retour de André Étienne.
Mais oui. Après des belles vacances, en forme. Et j'ai hâte de partager avec vous les articles que j'ai lus. Donc, j'espère qu'ils vont vous plaire. Faites-nous des commentaires.
Pendant que nos copains, Marie Lalande, Yvan Desdoriers, sont en train de se la couler douce. Hein?
Oui, c'est ça.
Mais ils ont été ici pendant l'été quand même.
Oui. Et puis, c'est ça. Comme ça.
André.
Oui, alors, donc, j'ai choisi donc trois articles, évidemment, à vous présenter. Alors, l'un est extrait de Québec Science et c'est pas très réjouissant, mais c'est une nouvelle menace sur les bélugas. Le second article, c'est pas très réjouissant non plus quand même, mais c'est la Terre qui vit sur ses réserves. C'est un article extrait du journal Le Monde. Et vous allez voir ce que je dis. Par contre, mon troisième article est très réjouissant parce que c'est un article que j'ai trouvé sur une expédition que j'ai faite en fin de semaine.
Ah oui?
Oui, c'est très réjouissant, vous allez voir. C'est un voyage insolite dans la forêt de Montmorency. Oh. Je ne sais pas si vous savez où c'est la forêt de Montmorency.
On attend avec impatience.
Oui, alors à toi, Michel.
De mon côté, je vous ai parlé récemment de reportages sur les aéroports dans le monde. Il y a beaucoup d'évolutions dans les aéroports actuellement. Donc, je vais vous amener encore faire un tour dans différents aéroports.
On aime ça voyager.
On découvre toutes sortes de choses. Puis, je voulais parler de structures qui sont en développement actuellement dans le monde. Des structures absolument phénoménales, extraordinaires. Par exemple, je vais parler de la tour la plus haute qu'on est en train de construire en Arabie Saoudite. 1 kilomètre de haut. J'ai autre chose aujourd'hui, qui est le pont de la démesure. Vous allez voir, les chiffres sont, je dirais, astronomiques. Et d'un autre côté, j'amènerai faire un tour dans le plus petit état du monde.
Mais pas mal riche quand même.
Ah oui, tout à fait. Alors, vous restez avec nous, hein? Alors, observation et réflexion sur l'univers des aéroports. C'est Sophie Fouron dans la presse du 4 juillet qui nous en parle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous endormir, de vous assoupir à l'aéroport? Ben, vous savez, vous avez plusieurs heures d'attente avant votre prochain vol. Ben, peut-être une nuit même dans certains cas. Ben, vous rêveriez peut-être d'une position horizontale.
Confortable
du moins. Hein? Ben, c'est fascinant de constater à quel point les aéroports du monde sont encore mal équipés pour accommoder le voyageur. Avec des retards fréquents.
Oui.
On sait, quand on voyage, on les connaît souvent, des annulations de vol. Ben, le confort devrait pourtant être, il me semble, une priorité. Ben, prenons simplement le concept des accoudoirs. Alors, sur quelques sièges, on pourrait en avoir, mais ça peut être pratique. Mais ordinairement, c'est toute une rangée. Hein? Alors, les aéroports nous imposent la position assise, carrée, sous un éclairage au néon. C'est assez difficile de s'assoupir. Hein? Ben, ils ont peut-être peur qu'on rate notre avion où il apprécie guère le spectacle plutôt peu élégant des voyageurs endormis.
Et qui ronflent quelquefois.
Ou qui ronflent parfois, c'est ça.
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer quand même? Parce qu'on en a vu quand même des aéroports qui ressemblent à quelque chose.
Ah oui, c'est ça.
Je me souviens de celui de Tokyo, c'est fabuleux.
Ben, on comparait dans un autre article les aéroports aux hôpitaux.
D'accord.
Avec les heures d'attente, les files d'attente, etc. Il y a une lumière. Il y a une lumière au bout du tapis roulant, disons. Plusieurs aéroports internationaux sont... Parce qu'il y a une grande concurrence. Ben, plusieurs se bonifient. Les aéroports investissent afin d'améliorer l'expérience des voyageurs. Inexistante il y a quelques années, les aires de détente avec chaises longues et fauteuils confortables sont maintenant disponibles dans certains aéroports. L'aéroport de Munich, et c'est un bon exemple d'aménagement réussi pour le voyageur fatigué. Singapour, et ça c'est un des je crois qu'il est considéré comme le meilleur au monde. Singapour arrive en tête de liste, suivi de Séoul, Helsinki, Vancouver aussi. Et dans le peloton de tête. Dans le terminal 2 de l'aéroport de Munich, il y a notamment des chaises longues et ce qu'on appelle des nap cabs. C'est des petites cabines privées où l'on peut dormir dans un vrai lit. Ben, moyennant un léger supplément, bien sûr, qui est de l'ordre de 10 euros. Mais parfois, ça vaut la peine. Hein?
Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, par exemple, les salles d'attente VIP, c'est très confortable.
Oui, tout à fait.
Quand on peut y accéder, il faut votre débousser. Portefeuille le permet-il?
Ben, oui. Vous voulez prendre une douche? Ben, c'est 15 euros. Vous optez peut-être pour peut-être simplement la débarbouillette dans les toilettes publiques. À noter, par contre, que quelques aéroports, dont ceux de Séoul, Abu Dhabi, Sydney, Auckland, offrent des douches gratuites.
Ah! C'est rare.
Ah oui, c'est très rare. À Christchurch, qui est en Nouvelle-Zélande, ils ont été obligés de resserrer les règlements de nuit. L'aéroport a vu son nombre de visiteurs de nuit augmenter dans les dernières années. Et certains passagers y passaient même jusqu'à une semaine afin d'économiser des frais d'hôtel. Et vous ne pourrez pas peut-être pas me croire, mais avec des réchauds, avec des cordes à linge.
Ah oh non!
Hein? Pour éviter que l'aéroport ne ressemble à un camping intérieur, il est maintenant strictement interdit de dormir ou même de s'étendre à l'aéroport de Christchurch, à moins d'avoir un vol, et il faut avoir la preuve à l'appui, hein, un vol avant 8 heures du matin. Des bouchons pour les oreilles, un masque pour les yeux, ben ça peut être pratique aussi, hein? Une alarme sur son téléphone pour être certain de ne pas manquer l'avion, et ce qui m'est arrivé à certains moments. Et une petite couverture, un coussin pour le cou, hein? Et ben à la rigueur, le plancher. Ce qui m'est arrivé à Los Angeles, et puis je me suis réveillé avec des pièces de monnaie à côté de moi.
Ah, ben ça vaut le coup!
On m'avait pris pour un itinérant.
Et c'est confortable, ça! Au moins en position allongée. Ouais.
De plus en plus de gens aussi prennent l'avion, ben ça c'est connu, mais aussi de plus en plus d'enfants. Et la plupart des compagnies acceptent de prendre en charge les enfants qui voyagent sans accompagnateur, moyennant certains frais, bien sûr. Par exemple, chez Air France, 50 euros. 70 $ canadiens, si on veut. Et United Airlines, 185 $. Donc, c'est plus du double.
Mais attends, là, quand les prix augmentent comme ça, est-ce que les services augmentent avec? Parce que ce n'est pas toujours le cas.
Curieusement, frais sont inversement proportionnels à la qualité des services à bord.
Ah, oui?
Exemple, Air France, dont les services sont les moins chers parmi les compagnies sondées, réserve un vrai traitement VIP aux enfants. Des cadeaux, divertissements, repas conçus expressément pour eux. Alors que United Airlines, American Airlines, est des plus chers. Ne prévoit rien de particulier durant le vol. Il faut donc s'assurer que l'enfant aura de quoi se distraire. Une collation, même une collation, si le repas n'est pas inclus, parce qu'ils n'en fournissent pas à ce moment-là aux enfants. Et dans tous les cas, un agent au sol accompagne l'enfant du comptoir d'enregistrement jusqu'à la porte d'embarquement ou un agent de bord.
Le prend
sous son aile.
Oui.
Hein, c'est beau comme expression en avion. Prend sous son aile.
Oh, c'est joli.
Tout ça,
c'est
joli. Ben, oui. Et à l'arrivée...
Il est lyrique aujourd'hui. Hein,
à l'arrivée, on accompagne l'enfant jusqu'au hall. Et la personne qui vient chercher l'enfant doit, bien sûr, fournir une pièce d'identité. Hein. Et de plus en plus, il faut avoir des pièces d'identité très précises. Et dans certains cas, ça prend même un contrat notarié. À cause des enlèvements d'enfants, bien sûr. Donc, on vous a promené quelque part dans des aéroports. Et c'était deux textes. Il y en a un de Fabienne Couturier, l'autre de Sophie Fouron, dans les presses du 4 juillet et du 20 juin.
Merci beaucoup. Eh bien, donc, je vous ai annoncé donc une nouvelle menace sur les bélugas. C'est un article extrait de Québec Science du mois de juin-juillet, qui est écrit par Marion Spé. Alors, savez-vous ce qu'elle est, cette menace? Qui elle est? Peut-être pas. Eh bien, c'est une curieuse marée rouge qui est survenue il y a 7 ans et qui n'est peut-être pas étrangère au malheur des bélugas, même si le déclin de nos marsouins reste mystérieux. Alors l'histoire, c'est que Tadoussac, en été 2008, l'eau prend une couleur rougeâtre. Donc, une couleur rouge envahit le fleuve. C'est un phénomène qu'on n'a jamais vu jusqu'ici.
Inquiétant,
exactement. C'était une floraison exceptionnelle d'algues toxiques. La coupable, elle s'appelle Alexandrium tamarens. C'est l'algue finalement la plus commune et la plus toxique du Saint-Laurent. Cette marée rouge, elle a stagné pendant... près de 10 jours au large de Rivière-du-Loup et du Pic. Enfin, finalement, un vent fort a mis fin au carnage, mais plusieurs oiseaux marins, plusieurs poissons, une centaine de phoques, plusieurs marsouins, un rorqual et au moins 10 bélugas ont été retrouvés morts après le passage de cette floraison d'algues rouges.
Rorqual, béluga,
C'est beaucoup, 10 bélugas
oui,
en plus.
Oui,
hein.
C'est beaucoup.
Alors, le directeur scientifique de l'Institut d'écologie du Saint-Laurent dit textuellement « On ne s'attendait pas à ce que ces algues puissent causer la mort de bélugas. L'événement de 2008 nous a ouvert les yeux et a révélé une menace beaucoup plus grave que ce que nous imaginions. » Donc, cet Alexandrium, qu'est-ce qu'elle est? C'est un unicellulaire naturellement présent dans le Saint-Laurent qui produit une toxine paralysante qui bloque les récepteurs responsables de la transmission de l'influx nerveux dans les muscles et dans les nerfs. Résultat, une paralysie générale et une asphyxie qui peuvent être mortelles. Cette toxine, elle est aussi foudroyante que l'arsenic. Ça fait peur, hein?
Oui.
Il en suffit de peu pour que les animaux filtreurs, comme les mollusques, en accumulent et deviennent toxiques à leur tour. La toxine ne les tue pas, mais elle persiste dans leur chair, comme dans le système digestif et le foie des poissons. Et puisque les bélugas se nourrissent d'invertébrés, comme des crevettes ou des calmars ou d'autres choses, et de poissons, comme des capellans, des harengs ou autres, ils sont contaminés à leur tour. Alors, on savait depuis longtemps que les algues toxiques constituaient une menace pour les humains. Mais qu'elles puissent constituer une telle catastrophe, ça a été vraiment une surprise.
Est-ce qu'il y a un espoir de se débarrasser de cette algue-là?
Pas vraiment, parce qu'elle est là et elle est là pour rester. Elle est parfaitement adaptée aux conditions estivales et elle est là au moins depuis aussi longtemps que le Saint-Laurent est étudié. Sa floraison, c'est un phénomène naturel. Mais l'intensité et l'étendue de celle qu'on a vue en 2008 étaient exceptionnelles. Parce que cette année-là, par un concours de circonstances, météo ou autres, les conditions étaient réunies pour qu'elle se développe avec une grande ampleur. Et ce qui est important, c'est que, comme les poisons des romans policiers d'Agatha Christie, l'algue, c'est une arme parfaite. Elle ne laisse aucune trace, aucune preuve, aucune lésion physique qui ne peuvent laisser penser à une intoxication.
Un poison inquiétant.
Un poison inquiétant, absolument, là. Vraiment, comme j'aime la comparaison dans l'article.
Ils disent, oui, avec Agatha Christie.
Comme les poisons d'Agatha Christie.
Oui.
Autant dire que c'est un vrai casse-tête pour les chercheurs. Parce qu'il leur faut pratiquer un examen médical comme le ferait la police scientifique sur un cadavre humain, incluant des analyses en laboratoire et des examens approfondis de tissus. On manque d'informations sur ces algues toxiques et certains laboratoires d'écotoxicologie sont fermés. Ça complique grandement la tâche de ceux qui veulent comprendre ce qui arrive.
Alors, comment les Sherlock Holmes des mers peuvent-ils mettre en accusation cette Silice Alexandrium? Pourtant, le nom est joli.
Oui, c'est très joli, là.
Alexandrium.
Absolument. Eh bien, c'est parce qu'en 2008, le diagnostic en était un essentiellement d'exclusion. C'est-à-dire qu'il a fallu exclure les autres causes de mortalité avant de pouvoir conclure à l'implication des algues toxiques. Depuis, on sait qu'Alexandrium doit être suspecté chaque fois qu'on ne trouve pas d'autres causes. Les bélugas, ils se sont adaptés à tolérer et à gérer une certaine concentration de cette toxine, si bien que sa présence ne révèle pas forcément une intoxication mortelle. Voilà de quoi se poser de nouvelles questions. Par exemple, la toxine peut-elle être nuisible à un animal sans pour autant causer sa mort? Quels sont les effets d'une intoxication faible mais chronique? L'exposition aux toxines pourrait-elle affaiblir les bélugas, les rendant éventuellement plus susceptibles à l'échouage ou aux collisions avec des bateaux? Voilà, ce sont plein de questions et il reste que la vigilance est plus que jamais nécessaire. Ceci n'augure rien de bon pour les bélugas, nos marsouins. C'était un article de Québec Science de Marion Spé.
Alors, c'était la valse des Belugas. C'était joli, hein?
Ah, oh, c'était ravissant.
Ah oui, mais oui. Et je vous donne en mille, hein, c'était la bottine souriante.
Wow.
D'un album qui s'intitule « Je voudrais changer de chapeau ». Ça va bien avec la bottine souriante, ça.
Oui.
Une composition d'André et André Marchand. Très bon choix, hein? Merci. Je vous ai parlé des grands chantiers du monde qui ont lieu actuellement. La tour d'un kilomètre en Arabie saoudite, l'élargissement du canal de Panama qui est en voie là, de construction, qui avance. Le barrage géant de l'Afrique qui pourrait fournir en électricité de la moitié de l'Afrique. Quand on sait qu'il y a 10 % de la population. Et aujourd'hui, le pont de la démesure. Le plus grand pont-tunnel du monde, c'est pas le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, non. Hein? Il est en cours de construction entre les villes chinoises de Macao, Zhuhai et Hong Kong. À l'ouest, Macabo, Macao.
Combien de kilomètres, ce projet?
Je vais te dire ça, c'est 42,
pressé, hein?
Quelque chose comme ça.
D'accord.
Oui, c'est ça, je donnais des points techniques. Donc, à l'ouest, il y a Macao, la ville voisine, c'est Zhuhai, puis à l'est, c'est Hong Kong. Sauf qu'il faut, dans le moment, plus de 4 heures en voiture pour contourner l'embouchure de la rivière et relier les deux côtés de l'estuaire. Avec le futur pont-tunnel, le trajet, à peu près 45 minutes. En 2016, de 10 000 à 14 000 véhicules devraient emprunter l'ouvrage chaque jour. C'est un chiffre qui pourrait atteindre, lorsque ça va être terminé, 200 000 usagers. Et ça, c'est chaque jour, hein?
Oui.
Alors, sous le nom de Hong Kong Zhuhai Macao Bridge, un peu compliqué, se cache non pas un simple pont, mais un pont de 42 kilomètres. C'est une kyrielle d'ouvrages mis bout à bout pour former un ensemble d'une taille, d'une ambition absolument inédite. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça. Le projet débute par une île artificielle. Et ça, c'est le seul moyen en périphérie de ces villes surpeuplées de trouver un endroit pour accueillir les locaux d'administration et de maintenance du pont. Et surtout les postes frontaliers de Macao et Zhuhai. Parce qu'il faut savoir que Hong Kong et Macao sont dotés de statuts particuliers et de régions administratives spéciales, d'où un système 3 régions, 3 contrôles douaniers.
D'accord.
Donc, on commence avec une île artificielle. Il y a ensuite un pont en béton précontraint de 22 km de longueur qui supporte une route deux fois 3 voies à 100 km/h. Et ça va être doté de trois parties équipées de haubans. Ça, c'est la deuxième partie. Et par la suite, la route plongera jusqu'à 45 mètres sous le niveau de la mer pour se transformer en tunnel
Mon
marin
Dieu.
De 6 km.
Ça ne doit pas être claustrophobe. Hein?
Donc, île, pont, tunnel. Puis, à proximité de la frontière maritime qui marque l'entrée de la région de Hong Kong, la route reprend 9 km la forme d'un pont en béton. Donc, on se promène en pont, tunnel, etc. Assez complexe. Et enfin, un tronçon de 2 km de viaduc terrestre accoste sur une autre île artificielle. Et c'est pas fini, hein? Car de là, les voyageurs pourront soit prendre la direction du sud vers le centre de Hong Kong par un pont, soit aller vers le nord par le biais d'un tunnel pour rejoindre les nouveaux territoires. Donc, vous avez comme 6 ou 7 différentes étapes de 42 kilomètres. Alors, pont, viaduc, tunnel, île artificielle, ben, les autorités chinoises n'ont pas hésité à faire vraiment dans la démesure. Hein?
Je ne sais pas si dans ton article, les coûts sont indiqués, parce que ça doit être...
Ah oui,
je ne sais même pas si on peut parler
aussi,
de démesure.
C'est ça, la démesure. Le coût de l'ensemble, c'est vraiment pharaonique. Hein.
Complètement.
Dans des projets comme ça, j'ai
employé... Tu peux inventer un nouveau mot, je crois.
Récemment, c'était pharaonique, titanesque, et c'est le cas. Et c'est là autour de 10 milliards d'euros. Et c'est pas terminé. On sait qu'est-ce que c'est, hein, quand on arrive à la fin.
Oui.
C'est partagé entre les autorités de Macao, de Hong Kong et de la province de Guangdong. C'est 8 500 tonnes d'acier, acier anti-corrosion. Hein. Et l'ampleur du projet est telle que sa conception a été confiée à plus d'une dizaine de cabinets d'études.
On espère qu'ils s'entendent les uns avec les autres. Hein?
Pas nécessairement. Chacune des trois régions a choisi des constructeurs différents pour bâtir les parties du projet sur son territoire. Trois projets, 10 concepteurs. Et né dans les années 1980 quand même, et formellement décidé en 2005, le chantier est en cours de construction depuis plusieurs années et fait travailler plusieurs milliers de personnes.
On imagine.
La pose de la première pierre a eu lieu en 2008. À Zhuhai, 2009 à Macao, mais n'a réellement démarré qu'en 2011 à Hong Kong. À ce jour, la base des îles artificielles est réalisée et l'installation des chaussées. L'ensemble doit, en théorie, entrer en service en 2016.
D'accord. On espère que les îles artificielles, elles ne vont pas être submergées.
Mais je vous dis bien, on va entrer en théorie, mais c'est vraiment en théorie seulement, car outre son envergure et son ambition, le projet se caractérise par un nombre impressionnant de contraintes.
Bon, alors, qu'est-ce qu'elles sont ces contraintes? Il doit y en avoir un maximum.
Oui, mais d'abord parce que l'estuaire de la rivière des Perles est une zone d'intense trafic maritime et aérien. Trafic que le tracé devrait veiller à ne pas déranger. Ensuite, parce que des vents de 180 km/h peuvent souffler lors des fréquents cyclones que connaît la région, ce qui doit bien sûr être pris en compte dans la conception des piles et du double tablier, au même titre que le risque sismique aussi. Parce que il faut aussi ne pas gêner les espèces rares et sensibles qui vivent à cet endroit, comme le dauphin blanc, qui est particulier en Chine. Et ça a un impact considérable sur le planning des travaux. Et enfin, parce que le dragon à trois têtes, c'est Guangdong, Macao et Hong Kong, qui est à l'origine du projet, a parfois du mal à avancer dans une seule et même direction. Donc, ça répond un peu à ta question. On a trois administrations et je vous rappelle que c'est depuis 1980 que le projet est... dans la tête des gens, du moins. Mais vous voyez que le terme pharaonique s'applique même s'il ne s'agit pas d'une pyramide.
Ouais.
Alors, c'était Pierre-Yves Boquet qui nous en parlait dans Science et vie hors série.
Merci.
Alors, je vous parlais d'aéroport. Je vous donne quelques trucs pour prendre soin de vos bagages, parce que vous avez certainement entendu des histoires d'horreur concernant des passagers qui avaient perdu leurs bagages. Si vous voyagez, ça va vous arriver tôt ou tard. Quelques suggestions. Alors, si vous décorez sa valise d'étiquette confirme votre statut de globe-trotter, c'est pas nécessairement prudent, parce que ça peut prêter à confusion quant à la destination de votre bagage. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Indiquez clairement vos coordonnées sur les étiquettes des bagages et assurez-vous que ces dernières ne sont pas sur le point de vous abandonner en chemin, ce qui est très fréquent aussi, perdre son étiquette. Optez pour des identifications faciles à reconnaître. Ajoutez des autocollants de couleur, des rubans, des vieux foulards ou des choses semblables. Attention pour pas que ça se prenne dans le carrousel, là. Sur une grande feuille, vous inscrivez vos coordonnées et vous le mettez à l'intérieur de vos bagages. Ça évitera que vos bagages restent 6 mois à un endroit, comme ça m'est déjà arrivé. Et emballez des objets fragiles. Emballez les objets fragiles. Et si vous avez une bouteille de vin, attention, emballez-la comme il faut. Parce qu'au retour, ça peut être un peu gênant. N'acceptez, bien sûr, jamais de transporter les bagages de quelqu'un d'autre, à moins que vous connaissiez, très bien la personne. Et pas de laisser vos bagages sans surveillance non plus. Si vous remarquez un bagage abandonné depuis un certain temps, on vous demande d'informer la sécurité. Et gardez toujours les objets de valeur, les photos, les médicaments, des choses semblables dans vos bagages à main. Alors, voilà quelques recommandations pour les voyageurs qui veulent retrouver leur bagage.
Merci beaucoup, on adore ça, on en a besoin pour voyager.
Allez, on fait une petite pause ensemble. Restez avec nous,
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Eh bien, la Terre vit sur ses réserves. On ne vit pas sur un scorpion, hein, quand même, mais c'est pas loin, hein, parce que c'est dangereux, cette histoire. C'est un article du Monde du 13 août 2015. Et effectivement, depuis le 13 août 2015, depuis cette nuit-là, la Terre vit sur ses réserves. Bon, donc, maintenant, désormais, nous vivons au-dessus de nos moyens. En moins de 8 mois, elle a déjà consommé toutes les ressources naturelles renouvelables que la planète peut produire en 1 an. Une organisation non gouvernementale qui s'appelle Global Footprint Network réalise ce calcul depuis une vingtaine d'années. Et grâce à des données qui sont fournies par les Nations Unies, elle compare l'empreinte écologique, qui mesure l'exploitation des ressources naturelles de la Terre par l'homme, avec la biocapacité de la planète, c'est-à-dire sa capacité à régénérer ses ressources et à absorber les déchets comme les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'ONG en question détermine ainsi chaque année le jour de l'année où l'empreinte écologique dépasse la biocapacité. Donc, pour 2015, ce jour de dépassement a été le 13 août 2015. Ce qui est inquiétant, c'est que cette date est toujours plus précoce. Elle avance de 3 jours par an, en moyenne, depuis 1970. En 2005, elle tombait début septembre. Et en 1975, elle tombait fin novembre.
Grande différence. Hein?
Grande différence, hein?
Oui.
Parce que ça veut dire que même si le calcul est approximatif quand même, il montre que le dépassement est très élevé et que l'humanité continue d'accroître sa consommation de ressources alors qu'elle vit déjà à crédit.
On dirait qu'on n'apprend jamais.
Exactement. Ben, on espère qu'ils vont finir par apprendre et que nous allons finir par apprendre.
Oui.
En tout cas, c'est une dette dont la planète et ses habitants paient déjà le prix puisque on parle toujours de déforestation, des baisses des réserves d'eau, d'épuisement des ressources aquatiques, accumulation de déchets et de gaz à effet de serre, etc. C'est un cercle vicieux. Alors, on espère qu'on va apprendre parce qu'à quelques mois de la conférence mondiale sur le climat, le jour de dépassement prend une résonance particulière. Les négociations à venir seront capitales pour réduire l'empreinte écologique parce que les premiers responsables de son augmentation, ce sont nos émissions de carbone. Rien que pour absorber les gaz à effet de serre émis par l'homme, 85% de la capacité totale de la planète sont aujourd'hui nécessaires d'après l'ONG. C'est un cercle vicieux, effectivement, parce que notre mode de consommation dégrade les écosystèmes dont nous dépendons. Ils rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement climatique aggrave encore la situation.
Mais est-ce qu'il existe d'autres facteurs pour expliquer ça, cette dégradation, cette fuite?
Oui, on est responsable en partie, mais il y a aussi d'autres facteurs, effectivement. Notamment, il y a l'accroissement de la population.
Ah oui.
Ça s'en est un. Et l'augmentation du niveau de vie de certains États qu'on appelle les BRICS. Ça veut dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce sont les grandes puissances émergentes. Quelques chiffres quand même. J'aime pas trop ça, mais il faut quand même que je vous les donne. Parce que il faudrait, par exemple, 1,6 planète pour répondre aux besoins de l'humanité. Et tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Hein? Parce que, par exemple, le Japon, il faudrait 5,5 Japon pour répondre à ses besoins.
Ah oui, il y a des écarts considérables.
Il y a des écarts absolument considérables. Le Japon, c'est 5,5.
Ah, c'est
la Suisse, c'est 3,5 Suisse. La Chine, c'est 2,7 Chine, quand on pense à l'étendue de la Chine. L'Inde, c'est 2. La France, c'est 1,4. Le Canada, je suis désolée, mais je n'ai pas trouvé l'information dans l'article. Alors, je ne peux pas vous dire combien de Canada il faudrait pour répondre à nos besoins. Il y a une prise de conscience qu'il faut faire, parce que c'est un constat inquiétant. Les 195 pays qui participeront aux négociations, donc, de mois de décembre, je pense, vont-ils avoir les moyens d'inverser la tendance? Alors, les optimistes répondent oui, mais c'est si nous arrivons à nous accorder sur une réduction de 30% de nos émissions de CO2. Nous pourrons alors infléchir la courbe. Bon, malgré les beaux discours, peu de dirigeants croient en l'intérêt pour leur pays de réduire leurs rejets.
Ah oui, c'est toujours le problème. Hein? C'est
exactement.
Les autres.
Exactement. C'est les autres. Mais là, on a quand même des chiffres. Hein, là, hein?
Oui, il faudrait que tout le monde s'entende. Quand on voit le Japon à 5,5...
Ça fait un peu peur, hein?
Ah oui.
Pourtant, c'est ce que montre notre indicateur, c'est que les États sont dans une situation critique. Alors, il faut faire prendre conscience à nos dirigeants qu'utiliser des ressources que l'on ne possède pas entraîne une grave, un grave risque économique. Bon, pour le fondateur de l'ONG, cette prise de conscience est absolument essentielle parce qu'ensuite, les leviers d'action sont multiples. Alors, les propositions sont diverses. On peut densifier les villes, transformer notre système énergétique en développant les énergies renouvelables et en économisant l'énergie. Réduire la place de la viande dans notre alimentation et aussi encourager la population à avoir moins d'enfants. Je mettrai un point d'exclamation. il n'était pas dans le texte, hein, par exemple. on met aussi l'accent sur la politique énergétique parce que les gouvernements doivent agir dès maintenant pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, pour vivre à nouveau un jour dans les limites de notre planète. C'était un article du Monde du 13 août.
Petit tour dans le plus petit état du monde. Bah, vous avez reconnu le Vatican, hein? La basilique Saint-Pierre. C'est la plus grande basilique du monde et ça porte la marque, le nom des célèbres architectes qui l'ont érigée. Et parmi eux, celui qu'on appelle en français le Bernin. Oh, son nom, c'est Bernini, hein? Je préfère Bernini. Il y a Raphaël aussi. Bah, bien sûr, Michel-Ange. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ben, entre autres choses, la Pietà, l'émouvante Pietà, qui est l'œuvre de jeunesse de Michel-Ange et qui est maintenant, malheureusement, on doit le dire, protégée par une vitre blindée depuis qu'un forcené l'a attaqué à coups de marteau en 1972. Ben, il y a d'autres incontournables aussi. La statue de Saint-Pierre avec ses pieds de bronze qui tue les pieds usés par des millions de baisers des pèlerins. Hein.
C'est drôle, hein, ça, quand on regarde les statues, des fois, on voit ça brille
à plusieurs endroits dans le monde. Hein.
Ça peut être les pieds, ça peut être les fesses, des fois.
Exact.
C'est drôle.
Et il y a la visite du Dôme aussi qui est intéressante parce qu'on peut apercevoir la ville de Rome et ses collines qui se dessinent au loin. Il y a la visite de la basilique, hein. Alors, la visite de la basilique, c'est gratuit.
Ah oui?
Ben oui, c'est gratuit pour tous et en tout temps.
Ça, c'est rare quand même, hein?
Et oui, mais ben voilà pour la théorie, hein? Parce qu'en pratique, de nombreux visiteurs paient pour y entrer avec une entreprise de visite guidée ou en achetant des billets en ligne auprès d'entreprises autorisées. Donc, si vous ne voulez pas payer, vous allez attendre entre 3 et 4 heures en ligne. Et c'est un peu frustrant de voir les gens qui, tout à coup, passent devant vous. Parce que eux autres, ils ont payé.
Mais ça vaut le coup de passer par Internet aussi, quelquefois.
Ah oui. Mais pourquoi on va payer? Ben, particulièrement pour profiter des explications d'un guide, mais surtout pour éviter l'attente. Hein. Et je vous dis, c'est 2-3 heures et parfois plus. Il est possible de louer un autoguide qui présente, en français, je dois le dire, une trentaine de points d'intérêt. Et l'achat d'un billet coupe-fil comprenant la location d'un audioguide pour une heure, ben, ça coûte 17 euros, environ 24 $ canadiens. Des visites guidées du Dôme aussi sont offertes. Le prix, ben, c'est 25 euros. Mais vous savez, une fois rendu sur place, parfois, ça vaut quand même la peine de payer le prix. Hein? Quand est-ce qu'on doit y aller? Ben, l'idéal, c'est de se présenter à la sécurité avant l'ouverture des portes à 7 heures. Et les premiers groupes en visite guidée ne sont pas admis avant 8h30. Un moment privilégié, peut-être, c'est une heure avant la fermeture, qui est 19h en été.
Mais il y a quand même beaucoup de choses à voir, alors quelquefois, une heure, ça ne suffit pas.
Oui, mais l'heure de la fermeture, mais une fois que vous êtes entré, je pense que vous pouvez continuer, comme dans plusieurs endroits dans le monde. Et ben, il y a la chapelle Sixtine, bien sûr. Hein?
Ah, évidemment, son plafond.
Qui est pas la chapelle de Sixtine.
Oh.
15, 16.
D'accord.
Enfin.
D'accord.
Ben, pourquoi on va là? Ben, la célèbre chapelle est intégrée au musée du Vatican. C'est pas ça, le musée du Vatican, c'est une partie. Et ça regroupe pas moins de 1400 salles qui sont réparties dans 11 musées distincts. Donc, il y a beaucoup à voir.
Oui.
C'est difficile de faire le tour.
Qu'est-ce qu'on voit alors
et
dans
ces musées? Et ça reste l'incontournable vedette de la visite, en particulier pour les fresques de la voûte, évidemment, qui ont été restaurées dans les années 80, mises en valeur par un système d'éclairage particulièrement intéressant, installé l'an dernier. Chaque jour, il y a plus de 15 000 personnes qui se tordent le cou pour admirer le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Mais on vous fait circuler rapidement, hein,
ouais.
Parce qu'avec 15 000 personnes, vous avez le temps de l'apercevoir. Mais il y a tellement plus à voir dans le musée du Vatican aussi, Musei Vaticani. Il y a des fresques, des chambres de Raphaël, celle de la galerie Descartes installée dans des décors extraordinaires, somptueux, on doit le dire. Il y a quelques 600 œuvres d'art moderne qui sont signées, et ça, c'est étonnant, Picasso et Dali.
Ah oui? Oui,
on ne devrait pas s'y attendre au Vatican, mais oui. Mais je vous dis, c'est considérable et fort intéressant. Il y a des dizaines de visites guidées différentes offertes par des agences promettant toutes le summum de la qualité. Accès exclusif tôt le matin, visite VIP à 300 euros par personne.
D'accord, c'est très VIP.
Mais oui, c'est très VIP. C'est un vrai casse-tête. Hein? Et pour choisir, il faut comparer la durée de chaque tour, les arrêts prévus, le nombre de personnes par groupe. C'est différent si vous êtes 10 ou vous êtes 200. Hein? C'est
évidemment
pas la même chose.
Évidemment.
Et est-ce que c'est possible d'y aller sans guide? Oui. Mais il faut impérativement réserver sur le site officiel des musées. Sans quoi, l'attente est interminable. Les billets peuvent être réservés jusqu'à 60 jours à l'avance. Et il est possible de se procurer le jour même des billets, ce qu'on appelle des billets coupe-fil, j'aime l'expression, hein, au centre d'accueil Place Saint-Pierre. Les musées sont ouverts du lundi au samedi et des visiteurs sont admis le vendredi soir, 19h. Mais le mercredi matin reste aussi un bon choix. 80% des visiteurs sont sur la place Saint-Pierre pour, bien sûr, les audiences papales. Mais oui.
Ça, c'est un bon tuyau, ça, c'est à retenir.
Tout à fait. Et si la place Saint-Pierre est ouverte à tous pour l'Angélus du dimanche, il faut un billet pour assister à l'audience du mercredi. Billet gratuit. Réservé par ou par poste de la Prefectura della Casa Pontifica. Et c'est toujours gratuit, mais si vous payez, vous allez passer avant les autres. Vous allez avoir une place de choix là-bas.
Voilà, le pouvoir de l'argent.
Moyennant un léger supplément. Et c'était un article qui est paru dans la presse du 13 juin et qui n'a pas été signé, donc anonyme.
Bien, c'était Voyager de Jean Leloup, choisi par Rémi. Et c'est un voyage aussi que je vous propose, et c'est un voyage tout à fait particulier. Je vous avoue que je l'ai fait en fin de semaine, alors je vais pouvoir en parler. C'est un concert phonique à la forêt Montmorency.
Où est la forêt Montmorency?
Ah, où est la forêt Montmorency?
Je ne connais pas.
Elle est à peu près à une cinquantaine de minutes en voiture à partir de Québec, en montant vers Chicoutimi.
Ah bon?
La route est très belle en plus, vraiment c'est super. Et puis c'est une très bonne préparation à ce concert phonique. Je vais vous en parler, mais j'ai choisi de prendre aussi les mots de Richard Boisvert, qui en a parlé aussi, et il écrit de la musique grandeur nature. Alors il dit que cette expérience, elle a quelque chose de paradoxal, parce que c'est effectivement comme si on entrait en contact avec l'extérieur. Et c'est aussi se lancer dans l'exploration de son propre intérieur. C'est vraiment, si vous voyez Michel qui est en train de se moquer de moi, mais c'est vrai que c'est une réalité. Parce que si on est un petit peu disposé à passer une soirée au bord du lac Bédard, puisque le lac autour duquel se passe ce concert s'appelle le lac Bédard, et c'est même pas autour duquel, c'est sur le lac.
Ah oui?
Oui, parce que les musiciens sont sur des barques. Et donc, on attend la brunante vraiment la nuit. On prend même un autobus à partir des pavillons d'accueil pour aller jusqu'à l'endroit. On vous dit initialement que c'est dans 5 minutes qu'on va être au lac. En fait, on y est 20 minutes après.
Ah.
Alors, on a le temps de patienter. Donc, on arrive au pavillon. D'abord, on va reprendre les choses dans l'ordre. Les uns arrivent en autobus. Et puis d'autres peuvent arriver en voiture aussi. Hein. Et dans l'air, évidemment, on est tout excité parce qu'on ne sait pas très bien ce qui nous attend. Mais par contre, le retour s'effectue dans un calme parfait. C'est vraiment très différent l'atmosphère quand on arrive et quand on part. Alors, la forêt Montmorency, en soi, c'est un dépaysement garanti. C'est donc à moins d'une heure. Le loup, le porc-épic, l'orignal, l'ours, tout ça, ça cohabite dans le secteur.
Pas pendant le concert.
Pas pendant le concert, mais on peut les entendre concert. Oui, oui, on peut avoir des surprises. Et il faut préciser que c'est Pierre Vaillancourt qui est un naturaliste guitariste et qui est l'instigateur des concerts phoniques. Et lors de la rencontre d'information organisée juste avant le spectacle, on nous recommande évidemment le plus grand silence. Et puis ce qui se passe, c'est que donc on arrive en autobus près du lac Bédard, et là, on nous a recommandé à tous, on est environ 2 grands autobus scolaires, plus un plus petit, ça veut dire à peu près 120 personnes. Et je vous avoue que c'est incroyable, mais le trajet entre les autobus et le lac Bédard, on s'assoit autour du lac Bédard, c'est silencieux.
Et le site se prête à ça.
Le site s'y prête.
Au calme, au silence.
Exactement, le calme. On suit le chemin qui est éclairé par des lanternes. Et le site, il n'a pas été choisi par hasard. Hein. C'est vraiment comme une sorte d'amphithéâtre naturel entouré d'une sapinière. C'est un espace acoustique absolument unique où les sons de la nature et ceux des instruments se confondent. Les interprètes, donc, ils s'embâclent sur leurs canaux. Ils sont tantôt rassemblés en formation serrée, mais tantôt dispersés sur la surface de l'eau. Et par moments, on les voit comme en ombre chinoise qui passent sur le lac. Par moments, on ne les entend même pas. On a l'impression qu'ils glissent sur l'eau. À d'autres moments, on entend le bruit de la rame. Alors, l'arrivée au lac, c'est un petit peu irréel, à la brunante, en sourdine. Toutes les directives ont été données. Et l'orchestre se compose d'un grand nombre d'instruments, la flûte, le violon, le tambour, des apôtres de toutes sortes, un instrument à vent très bizarre qui vient d'Australie, une guitare et même une contrebasse. Alors là, la représentation commence, le plus simplement du monde. La musique semble surgir de la nature elle-même. Je vous avoue qu'au début, je me demandais si c'était vraiment des instruments de musique ou si c'était vraiment les animaux.
Ah oui?
Parce que c'est vraiment incroyable, hein? Parce qu'avec les différents apôts, les instrumentistes réussissent à mystifier vraiment notre oreille. Au bout d'un moment, on se dit, c'est pas possible que ça soit juste à ce moment-ci qu'on les entende. Mais on remarque rapidement que ce ne sont pas exactement les cris, mais ils sont vraiment peu éloignés du cri de l'orignal, par exemple. Le silence, il fait vraiment partie du spectacle et on s'en rend compte lorsque, par exemple, parce qu'on est sous les étoiles, hein, donc on est en plein air, on est assis sur nos chaises ou sur des bancs. Et par exemple, lorsqu'un avion traverse le ciel, en ville, on ne s'aperçoit pas quand un avion passe au-dessus de nous, il est totalement inaperçu. Mais quand on est là, c'est comme un long filet de bruit blanc qui va déchirer la voûte étoilée. Et c'est si présent qu'il fait fonction d'intermède. Alors, l'obscurité s'épaissit. Le climat change. On sent comme des mouvements aériens, des nappes d'humidité passagères peuvent survenir. Heureusement, on nous a fourni de bonnes couvertures de laine à l'arrivée.
Bonne idée.
C'est une bonne idée. Puis je vous jure que c'était une bonne idée. Pourtant, il faisait beau samedi soir. Il faisait chaud hein, dans la journée. Mais on est quand même à une bonne altitude. Hein. Je ne sais pas exactement à quelle altitude on est, mais on est à une bonne altitude déjà. Alors, la durée du concert, c'est environ 1h40. Les spectateurs peuvent emporter leurs propres chaises, leurs couvertures, leurs boissons. Et le transport en autobus aller-retour peut se faire à partir de l'Université Laval. Mais c'est un coût tout à fait minime. Alors, j'ai pensé que c'était un beau voyage sonore qu'on allait vous offrir là.
Oui, on a réussi à visualiser aussi.
J'espère que j'ai réussi.
André.
À... Oui, merci. C'était complètement féerique, oui, magique, enchanteur.
Ouais, on a réussi à imaginer qu'est-ce que ça pouvait être.
J'espérais vous mettre dans cette atmosphère-là. Yeah. Je voudrais juste ajouter quelque chose à cette information. c'est que ce spectacle, donc auditif, si on peut dire, a lieu tous les samedis soirs jusqu'à fin août. Alors, il vous reste encore un samedi pour en profiter. Vous pouvez taper sur Internet « Concert phonique à la Forêt Montmorency ». Et donc, le prix des billets, c'est à peu près 45 $ plus taxes. Il faut réserver par avance et vous allez profiter de tous ces avantages-là, phoniques essentiellement.
Belle découverte.
Oui, c'est une belle découverte.
Alors, on était au Vatican tout à l'heure, ben, de pape, hein, ben, vous savez que l'élection au pontificat de l'Argentin, Mario Bergoglio, a suscité beaucoup d'intérêt, hein, et partout sur la planète, pas seulement chez les catholiques. Chacune de ses apparitions publiques au Vatican, c'est vraiment ardemment couru. En général, il en fait deux par semaine. Les seules exceptions, c'est lors de ses voyages à l'étranger, ou en nous, alors qu'il se retire dans sa résidence de Castel Gandolfo. Ben oui, il a le droit de se reposer aussi, hein. Ainsi, le dimanche à midi, il apparaît à la fenêtre des appartements pontificaux. Il fait une brève allocution en italien devant une place Saint-Pierre survoltée. Entrée gratuite, mais on vous conseille de prendre un guide quand même.
Eh bien, une petite brève, à 14 ans, il découvre le préservatif qui change de couleur en cas de MTS. Ce sont trois collégiens âgés de 13-14 ans qui ont mis au point un préservatif qui change de couleur. C'est une découverte évidemment qui intéresse les entreprises. Ils n'ont pourtant pas l'âge moyen du premier rapport sexuel, mais cette trouvaille leur a valu quand même un premier prix pour leur découverte, puisque une fois en contact avec la bactérie, le préservatif va changer de couleur. Bleu pour la syphilis, vert pour chlamydia, jaune pour l'herpès et même violet en cas de présence d'un papillomavirus.
Voilà, ceci nous amène à la fin de l'émission. Ben, merci à André, hein, et ça fait plaisir d'avoir ton retour. Merci à André, à Rémi aussi, Rémi Hermoso, mise en onde de choix musicaux. Ben, écrivez-nous, envoyez-nous des commentaires à canalm.org. On est en reprise à 13h et 21h. Et on vous souhaite une très bonne semaine.
Oui, bonne semaine. Ça nous a fait plaisir de partager ces articles avec vous.